France Inter,
franceinter.com.
Il est 8h18, l'invité de France Inter ce matin.
François Fillon, Premier ministre.
France Inter, le 7-10.
Bonjour à vous. Ben voilà, bonjour à vous et bienvenue sur France Inter, François Fillon. Aujourd'hui, la rentrée des profs avec 11 200 fonctionnaires de moins dans l'éducation nationale. Votre ministre de l'économie, Christine Lagarde, a décrit la situation d'un mot hier, plan de rigueur dans la fonction publique. Vous reprenez le terme ce matin ?
Il faut de la rigueur dans la gestion des deniers publics, mais il faut aussi revaloriser le métier des enseignants et, d'une façon plus générale, la condition des fonctionnaires de notre pays. On peut pas ne pas réduire la dépense publique. On est le pays d'Europe qui a le plus d'emplois publics. On est celui qui fait le plus de dépenses publiques. Et on est naturellement celui qui a aujourd'hui l'endettement le plus élevé. On s'endette pour payer les salaires des fonctionnaires. On s'endette pour payer le fonctionnement quotidien de l'État. Ça n'est pas possible. N'importe quel gouvernement confronté à cette situation doit réduire la dépense publique, et c'est ce que nous faisons en engageant progressivement un plan de réduction des effectifs, d'amélioration du fonctionnement de l'État. Mais en même temps, il faut revaloriser la condition des enseignants. Il faut que les fonctionnaires soient mieux traités dans notre pays. Il ne faut pas que le regard de l'opinion publique sur les fonctionnaires soit aussi critique que celui que nous connaissons aujourd'hui.
Mais l'expression « plan de rigueur » vous semble-t-elle fidèle à la situation ?
Il n'y a pas de plan de rigueur. Il y a un effort constant pour réduire les dépenses de l'État. Vous savez qu'on a engagé une revue générale des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on prend chaque politique publique. Il y en a qui sont des politiques qui sont conduites depuis des années et des années sans que personne ne soit vraiment interrogé sur leur efficacité, sur leurs résultats. On les prend une par une. On regarde ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut supprimer. Si on prend l'éducation nationale, il y a 900 000 enseignants. Il y a 12 millions d'élèves qui vont rentrer. Personne ne peut sérieusement prétendre qu'il n'y a pas des améliorations à apporter au fonctionnement de l'école. Il y a une foison d'options. Il y a des problèmes de remplacement qui sont mal réglés. Il y a des enseignants qui ne sont pas devant les élèves parce qu'ils enseignent dans des disciplines qui sont en perte de vitesse. Voilà, comme dans toute organisation humaine, il y a dans l'éducation nationale une optimisation nécessaire.
Est-ce qu'on peut faire mieux avec moins de gens ?
Bien sûr qu'on peut faire mieux avec moins de gens. Bien sûr, et d'ailleurs c'est le défi que toutes les sociétés humaines, auxquelles toutes les sociétés humaines sont confrontées, améliorer la productivité, améliorer la qualité de l'organisation. D'ailleurs, la meilleure preuve qu'on peut faire mieux avec des effectifs moindres, c'est que la solution retenue depuis des années qui a consisté à répondre aux défis de l'école simplement en recrutant des personnels a abouti à un échec. Tout le monde constate aujourd'hui que l'école ne fonctionne pas mieux qu'hier.
Elle est en crise, d'après vous. Il y a eu un rapport très sévère du Haut Conseil de l'Éducation que vous aviez créé lorsque vous étiez ministre de l'Éducation nationale.
On le sait bien que l'école est en crise, on le constate tous. On constate que ses résultats ne sont pas ce qu'ils devraient être. On constate qu'elle a de plus en plus de mal à atteindre ses objectifs. Pour que l'école se renouvelle, pour que l'école sorte de cette crise, il faut qu'elle se concentre d'abord sur des objectifs plus clairs. C'est ce qu'on a essayé de faire avec la loi de 2005, mais il faut aller plus loin encore. Et puis il faut qu'on résolve des questions spécifiques qui sont liées aux quartiers, qui sont liées à des publics en difficulté, qui sont liées... Au fond, il faut individualiser de plus en plus les parcours. Et c'est pour ça que la grande innovation de la rentrée 2007, que Nicolas Sarkozy a voulu et que le gouvernement a mis en place, c'est les études surveillées après 16 heures. On va commencer dans les collèges des zones d'éducation prioritaire pour les étendre l'année prochaine à tous les collèges.
Il n'y a pas de plan de rigueur, disiez-vous. C'est donc une bourde de votre ministre de l'économie ?
Non, mais faut pas... Vous voyez, vous cherchez à vous poser le ministre de l'économie et le premier ministre, vous n'y arriverez pas. Christine Lagarde est ministre de l'économie, elle a raison de dire qu'il faut de la rigueur dans la gestion.
Un plan de rigueur et de la rigueur, c'est deux choses très différentes.
C'est pas très différent. Elle s'exprimait sur une radio, même concurrente, et elle a dit, au fond, quelque chose qui correspond à sa fonction. Il faut de la rigueur dans la gestion des dépenses publiques. Et c'est d'ailleurs mon rôle, en tant que Premier ministre, de faire en sorte que les objectifs de déficit sur lesquels nous nous sommes engagés soient tenus.
Suez-GDF, ça y est, donc la fusion est faite. On l'apprenait il y a un petit peu plus de trois quarts d'heure maintenant. Votre réaction à l'émergence de ce nouveau groupe dans le paysage de l'énergie, François Fillon ?
Vous savez, la question de la maîtrise de l'énergie va être une question centrale au cours des prochaines décennies. Et la question pour la France, c'était quelle est la meilleure solution pour affronter le défi de l'énergie. Eh bien, avec cette solution, on se dote d'un deuxième géant de l'énergie qui va être le troisième ou le quatrième mondial, suivant le classement que l'on donne à Gazprom. C'est-à-dire que la France va disposer, dans les quatre premières sociétés énergétiques mondiales, de deux entreprises. Et je pense que c'est un atout considérable. C'est un atout qui va nous permettre de structurer le marché de l'énergie en Europe. C'est un atout qui va nous permettre d'être un acteur majeur sur ce marché. Je pense que c'est une très belle opération dont je me réjouis que ces présidents, les présidents des deux sociétés, l'aient rendu possible.
Privatisation ?
Il y a forcément une privatisation dans la mesure où l'État n'est plus majoritaire, en tout cas n'est plus au-dessus de 50% dans le capital de Gaz de France. L'État, enfin le secteur public aura environ 40% du nouveau groupe, 40% de Gaz de France et de Suez. Je pense que c'est mieux que 70 ou 80% de Gaz de France tout seul.
On a réentendu le son dans le journal de Patrick Cohen, et vous savez comment parle Nicolas Sarkozy, c'est un vieux son hein, qui a à peu près un an et demi, deux ans, dans lequel il dit, avec le style direct qu'on lui connaît, il n'y aura pas de privatisation, point, c'est pas la peine de barguigner, il n'y aura pas de privatisation. Bon, privatisation, vous venez de le reconnaître. Alors, comment expliquer ce revirement de point de vue là ?
D'abord, la situation est différente. En 2006, quand l'opération de fusion Gaz de France-Suez a été annoncée par le gouvernement précédent, il s'agissait de sauver Suez. C'était une opération financière. Aujourd'hui, c'est une opération stratégique qui consiste à faire un groupe de l'énergie. C'était d'ailleurs un des obstacles sur lequel nous avons buté depuis trois mois. Comment marier un groupe énergétique Gaz de France avec un groupe multi-activité Suez. On l'a résolu en obtenant que Suez se sépare, filialise ses activités en matière d'environnement. Deuxièmement, on a étudié toutes les autres solutions. J'avais dit au début de l'été, la fusion est pertinente, mais il y a d'autres solutions. Donc on a, avec Nicolas Sarkozy, examiné toutes les autres solutions. L'alliance avec des producteurs de gaz. On a cherché d'autres solutions pour donner à Gaz de France la dimension qui lui permette d'être un acteur majeur dans le monde. On n'a finalement pas trouvé de meilleure solution que Suez. Et comme on est pragmatique, eh bien, on va vers cette solution. Et je fais remarquer que Nicolas Sarkozy, en l'espace de quelques années, aura permis de donner à la France un grand groupe Alstom dans le domaine industriel, restructuré EADS et aujourd'hui créé un géant de l'énergie.
Quel rôle avez-vous eu dans la gestion de ce dossier ? Parce qu'on entend parler de tout le monde, sauf de vous, François Fillon, et de Matignon, et de la part que vous auriez pu y prendre.
Ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est les résultats. Matignon travaille dans l'ombre. Matignon était à toutes les réunions, toute la journée d'hier, pilotait le travail technique. Mais au fond, ça n'a pas d'importance. Et je ne vais pas me livrer sur votre antenne à une comptabilité du travail des uns et des autres. Ce qui compte, c'est les résultats. Et puis, c'est au fond la façon dont les Français juge le tandem que nous formons avec Nicolas Sarkozy. Et vous avez pu constater que sur ce sujet-là, il n'y a pas photo. Il le juge avec beaucoup d'enthousiasme.
Il paraît qu'il parle de vous comme d'un collaborateur, François Fillon, et que ça vous agace.
C'est une expression que je ne reprendrai pas. Un collaborateur, c'est quelqu'un qui est appointé par un patron. Je suis un homme politique. Un homme politique, c'est quelqu'un qui a des convictions, une légitimité, le suffrage universel. Maintenant, ce qui est vrai, c'est ce que j'ai d'ailleurs toujours dit. Je l'ai même théorisé dans un livre avant d'être Premier ministre.
La présidentialisation
du régime. Je pense que le Premier
régime.
Ministre est là pour mettre en œuvre la politique du président de la République. J'ai fait campagne avec Nicolas Sarkozy, je me suis battu pour qu'il soit président de la République, j'ai travaillé avec lui à l'élaboration de son projet. C'est pas pour le lendemain causer des difficultés dans la mise en œuvre d'un projet auquel j'adhère.
Mais sincèrement et en toute franchise, au moment où vous avez accepté le job, comme on dit, est-ce que vous vous attendiez à ça ?
Bien sûr. Nous avions avec Nicolas Sarkozy depuis deux ans construit non seulement notre projet politique, mais la manière dont nous le mettrions en œuvre.
Vous voyez comment l'émergence de personnages de l'État qui jusqu'alors étaient dans l'ombre, je pense au secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, qui sur une radio concurrente, comme vous le diriez, François Fillon, faisait hier soir, avant vous, sa propre rentrée, omniscient sur tous les dossiers, ressemblant très étrangement soit à un vice-président, soit à un Premier ministre bis.
Non, mais je comprends que ce sujet vous passionne.
Bah, c'est
quand même
nouvelles...
vraiment pas les Français.
Ouais,
vraiment
non, pas les Français. On ne sait jamais, c'est de nouveaux équilibres à l'intérieur de l'appareil d'État.
Il y a quelque chose qui a changé, et je pense qu'il faut que vous en rendiez compte. On veut la plus grande transparence dans notre système politique. Et des gens qui occupent des responsabilités importantes doivent pouvoir répondre aux questions de la presse. Il n'y a pas de pouvoir secret, il n'y a pas personnage de l'ombre. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Donc vous verrez au cours des mois prochains d'autres personnalités de l'État qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre s'exprimer. Je pense que c'est très bien. Et tout ça se fait dans une coordination qui est parfaite.
Mais le revers de l'hyper-président, c'est l'hypo-premier ministre.
Mais quelle importance là ?
Bah, je sais pas,
ça a une importance
c'est
pour
quand
vous.
Même un poste important non, dans non, le, non, la mais... hiérarchie des pouvoirs au sein de la République.
Moi, je sais quel est le travail que fait le Premier ministre pour permettre au gouvernement de fonctionner. La question de savoir quelle est la part de médiatisation dans ce travail, elle m'intéresse peu. Moi, ce que je veux, c'est des résultats. Je veux que la politique que j'ai souhaitée, que j'ai largement contribué à déterminer avec Nicolas Sarkozy, je veux qu'elle marche. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que ça marche, alors que dans la période précédente, ça ne marchait pas. Et ça ne marchait pas en particulier parce qu'il y avait une diarchie entre le président et le Premier ministre qui n'était pas saine.
Dominique de Villepin, précisément interrogé dans Le Parisien hier, dit en substance que l'état de grâce, le style, l'énergie, tout ça est parfait, formidable, même, mais que les politiques se jugent aux résultats. Comment prenez-vous ce rappel à la réalité ?
Ben, il a raison, il a eu quelques résultats, on aura les nôtres à la fin de ces 5 ans et on pourra juger. Je n'aime pas qu'on parle d'état de grâce parce que je ne pense pas qu'il y ait d'état de grâce. Je pense qu'on n'a jamais eu d'état de grâce d'ailleurs. On agit, on voit d'ailleurs que il faut en permanence relancer la machine. Et c'est une des forces, je pense, de l'équipe gouvernementale que j'ai constituée avec Nicolas Sarkozy, que d'être capable de relancer en permanence la machine pour faire en sorte que les Français n'aient pas le sentiment que le gouvernement s'assoupit, que le gouvernement est fataliste, que le gouvernement laisse les choses faire.
À tout de suite, François Fillon. On vous retrouve dans une petite dizaine de minutes pour Interactive. Vous répondrez à toutes les questions des auditeurs de France Inter.